France Inter.
Nous cherchons un bon restaurant français.
Qu'est-ce que je vous sers?
Les meilleurs restaurants du monde sont à Paris.
Alors à suivre, à Trinquot, à Salé, de Suprême, à Coquelet, à Pavé du Jour Saignant.
J'aimerais...
Choux d'Aubervilliers.
Des choux froids, du vin fin, des pâtés.
Tiens, l'enseigne de la boucherie Chevalier n'a perdu une oreille.
Mais vous mettez de côté Paris-Brest, là, il en reste qu'un, je veux pas le rater.
Oh, dans la vitrine de la pâtisserie, il y a des sucettes Pierre au bourg.
Comment on fait les tartelettes amandies?
Tu viens prendre un petit déjeuner, j'ai des croissants tout chauds.
Les cabillauds, les aigres fins.
Alors, monsieur Carême.
Les plis, les limandes. Les congres.
Le grand Véfour qui a conservé ses décors.
79 jambons à l'os.
Le soupe à l'agneau, une beaujolais, ça fait 15 francs.
Ah, splendide, monsieur.
J'ai faim.
Le croissant, la baguette, le restaurant, le bistrot, le Paris-Brest, c'est à se demander ce que Paris n'a pas inventé en matière de gastronomie. Je vais vous raconter le fabuleux destin alimentaire et culinaire de la capitale, du Moyen-Âge à nos jours, en 5 épisodes. Épisode 1, quand Paris reçoit. Son génie en matière de bonne chère, Paris l'a d'abord écrite à la table des grandes réceptions officielles qui ont jalonné son histoire. Nous allons explorer quelques-unes d'entre elles avec Loïc Bienassi, historien de l'alimentation et de la gastronomie. Honorer et éblouir ses hôtes par les fastes culinaires, cette tradition très française de la diplomatie de la fourchette ne remonte pas, comme on le pense souvent, à la cour de Versailles. Quelques siècles plus tôt, Paris, la capitale de France, excellait déjà dans l'art d'asseoir son pouvoir à table. Paris ripaille quand Paris reçoit. Nous sommes en 1378 sur l'île de la Cité, dans le Paris du Moyen-Âge. Charles V est le roi de France. Le 6 janvier, jour de l'Épiphanie, il reçoit en grande pompe Charles IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'un des personnages les plus puissants de l'époque, accompagné de son fils Venceslas, roi des Romains. Cette visite officielle revêt la plus haute importance diplomatique.
Oui, sur le plan diplomatique, précisément, parce qu'il s'agit de la première visite d'un empereur du Saint-Empire romain germanique, en France. Et c'est d'ailleurs riche d'enjeux cérémoniels, parce que l'empereur, deuxième personnage de la chrétienté, derrière le pape, se joue avec le roi de France, finalement, tout un jeu de pouvoir symbolique, parce que le roi de France, lui, doit prouver qu'il est précisément empereur en son royaume. Donc ça, c'est le premier aspect. Des enjeux diplomatiques aussi. Charles V est en quête d'appui dans le cadre de la guerre de Cent Ans, bien sûr. Charles IV, l'empereur, donc, lui, est en quête aussi de reconnaissance pour son fils. Et puis, il y a sans doute des motifs plus personnels parce qu'il revient un peu sur ses lieux de son enfance, qu'il a été élevé, au moins partiellement, il a passé une partie de son enfance à la cour de France. Et il y a donc ces raisons affectives, personnelles, et également, j'allais dire, des raisons de santé, parce qu'il souffre énormément de la goutte et il souhaite se rendre à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés en pèlerinage, en espérant trouver une solution à sa maladie.
Ce banquet de 1378 est aussi exceptionnel par le faste déployé.
Absolument. Et là, et d'ailleurs c'est aussi exceptionnel, on est très bien documenté sur ce faste. On dispose d'énormément de documents sur tous les aspects de ce banquet, et notamment les aspects culinaires. Faste, c'est d'abord le faste des lieux. Faste du palais de la Cité. Ce palais de la Cité, alors dont aujourd'hui il reste ce qu'on appelle la conciergerie, parce que Charles V n'habitait plus le palais de la Cité, qui est un peu le palais historique des rois de France, sur l'île de la Cité, au cœur de Paris, et avait donc laissé un concierge pour administrer le palais, concierge, titre très prestigieux. Et donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la conciergerie, qui en fait se compose d'une grande salle, d'un vaste hall, ce qu'on appelle la salle des gendarmes, et des cuisines du commun, c'est-à-dire du personnel du palais de la Cité.
Ces lieux existent encore, on peut les visiter.
C'est ça, c'est ce qui reste aujourd'hui de cet ensemble palatial très imposant, mais finalement ce n'est qu'une petite partie de ce qui existait alors, et la salle où se tient le banquet, la grande salle, elle se situait à l'étage supérieur, immense, 1700 mètres carrés, sans doute la grande salle la plus imposante de la chrétienté. Et puis, je parlais des cuisines du commun, c'est-à-dire du personnel, elles sont toujours là. Par contre, la cuisine du roi, les cuisines de bouche, elle, se situait également au premier étage et il n'en reste rien. Notons que pour ce grand banquet de 1378, les cuisines du commun comme la cuisine de bouche avaient été mises à profit parce que face à l'immensité des préparatifs, on avait besoin de ces deux cuisines. Le faste, c'est aussi la décoration de cette salle. Évidemment, les jours de fête, pour ce type de banquet, il y a toute une décoration, on l'enrichit de tapisseries, de tentures, il y a une abondance de lumière. Et puis, le faste, c'est le banquet lui-même, naturellement. Alors, plus exactement, c'est une série de banquets qui se tiennent du 4 au 6 janvier. Et le grand banquet, c'est celui du 6 janvier, celui de l'Épiphanie. Et là, c'est extrêmement spectaculaire. On a cette table de marbre noir, grande table d'honneur, sur laquelle on trouve le roi de France, l'empereur, le roi de Bohême, le roi des Romains, si vous voulez, l'archevêque de Reims, d'autres tables d'honneur, et peut-être, au total, 800, 1000 convives, c'est gigantesque. Et puis, il y a quelque chose qui est marquant, c'est ce qu'on appelle les entremets. C'est finalement un spectacle, hein, enfin, en l'occurrence, deux spectacles, qui scandent le repas autour du motif de la première croisade.
Entremets au sens de séquence entre deux mets.
Exactement, donc des tableaux vivants. Premier entremets, on a la traversée de la Méditerranée par les croisés. Donc, on a une nef, un navire qui traverse la salle. Et donc, on a des témoignages, tout le monde est bluffé, j'allais dire, par cette mise en scène. Et puis, deuxième entremets, là, c'est la prise de Jérusalem, avec une reconstitution de Jérusalem, avec l'appel du muezzin. Il y a toute une mise en scène qui, encore une fois, frappe les convives. On a des témoignages à ce sujet.
Et voici tout d'abord un gigot à la taille.
Ah! Ce qui rend aussi ce banquet prestigieux, c'est qu'a priori, le cuisinier français qui l'assure sur le plan culinaire n'est autre que le cuisinier le plus illustre du Moyen-Âge.
Absolument, c'est-à-dire Guillaume Tirel, dit Taïwan, il est plus connu sous le nom de Taïwan, son surnom, qui a fait toute sa carrière dans les cuisines au service des rois de France, hein, Charles IV, Philippe VI et donc Charles V, qui a servi sans doute plus de 60 ans les rois de France, qui a laissé son nom à un traité qu'on appelle le Viandier de Taïwan. L'histoire est un peu plus compliquée, mais il a sans doute mis la main à ce traité, et qui est reconnu, honoré par ses contemporains, et honoré notamment, évidemment, par les rois de France. Donc, même si on n'a aucune preuve précise de sa participation, il est très vraisemblable que c'était lui qui, en effet, était aux commandes.
Comment redonner vie à l'un des plats emblématiques qui étonna les hôtes de ce fastueux banquet de 1378 ? C'est le défi que relève Fabien Muller, un genre d'archéologue du goût, historien de formation. Je pars à sa rencontre pour ressusciter une recette surprenante.
Bonjour.
Bonjour François Régis. Bienvenue à Provins, au banquet du troubadour qui m'a prêté sa cuisine pour que l'on puisse réaliser une recette médiévale.
On est vraiment dans un lieu du Moyen-Âge.
Ah oui, complètement. Il y a des magnifiques caves voûtées, avec des retombées sur des colonnes de pierre et des chapiteaux sculptés. Et donc la cuisine, elle se trouve juste au-dessus de la salle. Alors c'est une cuisine moderne, entièrement équipée. Il est vrai que les normes d'hygiène européennes de 2023 sont un peu différentes de celles de 1378. mais ça va nous permettre de réaliser une recette du Moyen-Âge.
Très bien.
Il y a une recette dont on est sûr, car on la trouve dans de nombreux récepteurs culinaires, c'est le civet d'huître. C'est une recette que je trouve fabuleuse et très originale parce que les huîtres sont cuites et c'est la recette que je propose de réaliser ensemble.
On pouvait imaginer une provenance de ces huîtres à l'époque ?
Ah oui, vraisemblablement de la Manche ou de Bretagne ou de la côte atlantique. Mais en tout cas, quand les huîtres arrivaient, on les consommait quasi instantanément. C'est un leurre de penser qu'on mangeait des produits avariés au Moyen-Âge. Globalement, on mangeait des choses très fraîches. Et quand on n'avait pas la possibilité de les manger fraîches, on les conservait, soit en fumant les aliments, notamment les poissons, soit en les mettant dans des barils remplis de sel pour assurer la conservation.
On y va ?
On y va. Donc on va commencer par découper un oignon.
Donc on détaille finement un oignon.
Voilà, que l'on va mettre à fondre dans une matière grasse. Donc là, on peut prendre du sagou, par exemple. On peut prendre de l'huile, hein. C'est de la cuisine aristocratique, donc on peut s'autoriser l'utilisation d'huile. Ou alors du beurre qui commence à s'utiliser de plus en plus. Les Bretons, déjà, sont très friands de beurre. Et donc du coup, là, on fait revenir les oignons et pendant qu'ils rissolent tranquillement, on va commencer à ouvrir nos huîtres. Donc là, on a des belles huîtres, hein, on a des marraines d'Oléron. Et ensuite, il suffira quand les oignons auront bien blondi, de jeter les huîtres à l'intérieur. Donc ça va les saisir assez rapidement. Mm-hmm. Et on va presque instantanément les couvrir avec du vin blanc pour les faire mijoter.
Et là, on reste assez fidèle à la recette de l'époque.
Complètement. Voilà, donc j'ai mis mes huîtres, je les fais saisir rapidement et les couvrir de vin blanc. Et on peut également...
Donc là, voilà. Là, il y a le vin blanc qui vient d'être versé.
Voilà. Et on peut également rajouter un acidifiant, que ce soit du verjus, un jus de raisin vert non mûri ou encore du vinaigre.
Mais dans tous les cas, cette cuisine médiévale est quand même assez portée sur l'acidité.
Oui, généralement oui. Et en fait, on se rend compte que manger acide est assez bénéfique, car il y a une sorte de stimulation à la fois des papilles et puis à la fois peut-être des sucs gastriques qui permet en tout cas de mieux digérer.
Et qui dit cuisine du Moyen-Âge, dit aussi épices.
Oui, donc là, les épices principales qui sont dans le civet d'huître, eh bien, c'est du safran. Donc le safran va donner
une
belle coloration jaune, mais également apporter du goût. Et on va également rajouter du gingembre. Donc là, voilà. J'en ai dans mon sachet. Une pincée. Des clous de girofle, je vais en mettre 2-3. Alors on peut rajouter de la maniguette, qui est une forme de poivre. Alors ce n'est pas de la famille du poivre, mais ça a une saveur piquante comme le poivre, et elle est appelée graine de paradis. Voilà, donc là, je coupe ma plaque. Le liquide est bien chaud, il est un petit peu réduit, et je vais rajouter de la chapelure, en fait, un pain sec grillé pour lier la sauce. Donc là, j'en rajoute un petit peu, et je mélange en même temps. Vous entendez ?
Et cette technique de la chapelure qui permettait en fait de lier une sauce, c'est-à-dire de l'amidonner,
oui.
C'est déjà présent au Moyen-Âge ?
C'est complètement présent au Moyen-Âge. On a des liants comme la poudre d'amande, par exemple, ou une poudre de fruits secs. On peut également utiliser des fruits secs comme les raisins ou les pruneaux, par exemple. On peut également utiliser des liants de matière animale, du foie, par exemple, que l'on va broyer, ou alors du sang qui va coaguler dans la sauce et qui va ainsi l'épaissir. Et on nous parle également d'amidon de riz aussi, donc une poudre de riz qui peut venir ainsi dans la cuisine et épaissir une sauce.
Et donc, voilà en fait ce civet d'huître.
Le civet d'huître est réalisé.
Avec un parfum épicé vraiment très prononcé.
Voilà, donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de goûter, hop, une cuillère.
Merci, je vais prendre une petite huître.
Pour vous.
On goûte ensemble.
Et une pour moi.
Il y a la note saline,
oui.
De l'huître, accompagnée par les épices, la douceur de l'oignon. C'est vraiment un plat super intéressant.
C'est intéressant parce que ça mélange vraiment beaucoup de goûts, beaucoup de textures différentes. Je pourrais, pourquoi pas, proposer ce plat médiéval à un chef étoilé qui pourrait le revisiter et faire quelque chose, je pense, d'absolument fabuleux.
Il y a un autre plat qui a fait sensation, voire un peu scandale, servi à l'occasion de ce banquet de 1378, c'est un certain accord terre-mer.
Voilà, je vois de quoi vous voulez parler, c'est le chapon pèlerin. Et alors effectivement, le chapon pèlerin, c'est fait partie des pièces spectaculaires. On aime bien, à un moment donné, dans le banquet, avoir des volailles revêtues de toutes leurs plumes, ou alors un coq habillé comme un chevalier, avec un casque, un bouclier, une lance, à cheval sur un cochon. Donc on parle là de coq homé. Et le chapon pèlerin, c'est aussi comme ça une sorte de mise en scène de recette, où le chapon part en pèlerinage avec une lamproie en guise de bâton de pèlerin. Et là où il a fait un petit peu scandale, c'est parce qu'on est vraiment en plein dans le péché de gourmandise en associant une volaille très grasse et très prisée, le chapon, qui est consommé en jour gras, avec un poisson qui, lui, est consommé en jour maigre.
Et associer les deux, c'était un peu péché.
Mais c'est un peu tendancieux. c'est pas forcément un péché, parce qu'on a un jour dans la semaine, comme le mercredi, où on est mi-gras, mi-maigre. Donc l'Église ne l'interdit pas. Mais c'est quand même un peu osé pour l'époque.
Merci.
Mais avec grand plaisir, et à bientôt, j'espère, pour une autre recette.
Loïc Bienassi, il vous fait envie ce civet d'huître ?
Ah, j'ai jamais eu, alors j'ai assisté souvent à des reconstitutions, mais j'ai jamais eu le plaisir de goûter, mais c'était un grand classique de la cuisine médiévale en tout cas.
Je vous le préparerai un jour, c'est promis.
Avec plaisir.
Mais sinon, à part ce civet d'huître, j'imagine qu'il y avait beaucoup d'autres plats. Donnez-nous un aperçu de l'offre gastronomique de ce banquet.
Alors, on a la chance, qui est rare, d'avoir un menu. On a une trentaine de plats pour ce banquet du 6 janvier. Alors, premier service, on trouve par exemple de la porée blanche et, des pois coulés, du civet d'huître justement dans le premier service, ce qu'on appelle des seringues d'anguilles, c'est-à-dire une sorte de matelote, Deuxième service, là on a des viandes et des brèmes rôtis, on a une grande quantité de poissons mer et d'eau douce qui sont apprêtés de différentes manières, on a un brouet azuré, un brouet jaune qui accompagne du chapon, parce qu'évidemment il y avait un jeu sur les couleurs qui était essentiel dans la cuisine médiévale, c'est une des façons de décorer la table, j'ai envie de dire. On a aussi des cygnes farcis couverts de feuilles d'or, autre jeu sur les couleurs et les, j'allais dire les textures sur la lumière, encore une fois. Et puis, troisième service, des lapins farcis et dorés, un brouet de couleur verte, des tartes sucrées, des épaules de mouton farcis.
Non, je t'ai plus.
Non, puis se mêlent le sucré et le salé. On s'en rend compte, là, dans ce troisième service.
Peut-on parler déjà à cette époque d'une cuisine parisienne ?
La cuisine mise en œuvre dans ce banquet de 1378, c'est une cuisine aristocratique qu'on peut en effet rattacher à Paris, puisque la cour, notamment sous le règne de Charles V, est en permanence à Paris. Donc, il y a une tradition aristocratique parisienne qu'on retrouve dans le traité de viandier de Taïwan et qu'on retrouve ici, dans ce banquet, mais c'est une cuisine de l'exceptionnel, clairement. Et on sait aussi qu'il existe, parce qu'on a un traité qui détaille cette cuisine-là, on sait qu'il existe une cuisine bourgeoise parisienne, c'est-à-dire avec des ingrédients qui coûtent moins cher, j'allais dire, en moindre proportion, et c'est le ménager de Paris. Le ménager de Paris, traité d'économie domestique, sans doute écrit en 1393, c'est un bourgeois de Paris qui donne des conseils à sa jeune épouse, et là on a énormément d'informations, et on voit que c'est une autre tradition culinaire, plus simple. Par exemple, un tiers des recettes qui sont servies lors de ce banquet de 1378 sont totalement absentes du ménager de Paris. Donc on voit qu'il y a une vraie différence, mais qu'on a deux types de traditions culinaires proprement parisiennes.
Autre époque, autre repas d'exception. Nous sommes le 25 novembre 1807. Napoléon est au pouvoir. La ville de Paris organise un festin pour honorer la garde impériale, l'élite de la grande armée qui revient triomphante de ses campagnes de Prusse et de Pologne. Antonin Carême, grande figure de la cuisine française du 19e siècle, relate cet événement mémorable dans l'un de ses livres.
Ces grands travaux s'exécutaient à l'hôtel de ville de Paris sous les ordres de messieurs Palu et Lannes. Nous employâmes dans cette affaire 6 bœufs, 75 veaux, 250 moutons, 8000 dindons, 2000 poulets gras, 1000 poulardes, 1000 perdreaux, 500 jambons, 500 langues fourrées et saucissons, 1000 pâtés, 1000 biscuits et babas, 1000 carpes, 1000 brochets, 18 000 bouteilles de vin Mâcon et 145 pièces de vin. Cette fête eut lieu dans les Champs-Élysées. 10 000 couverts y furent placés. Au milieu, en face de l'allée des Veuves, une vaste tente contenait le grand couvert de l'état-major. Ensuite, sous les grandes avenues à droite et à gauche de la route, à partir de la place Louis XV jusqu'à la barrière de l'Étoile, deux files de tables couvertes de 10 000 couverts. Chaque convive avait sa bouteille de vin. Ces deux grandes tables furent couvertes par 6 000 objets de cuisine tels que je viens de l'annoncer. La table placée sous la grande tente fut également servie tout en froid et le tout se passa avec cet ensemble accoutumé. Une partie des comestibles et les 145 pièces de vin furent données au peuple dans les 12 arrondissements de la capitale. Jamais travaux ne furent plus pénibles pour les cuisiniers.
Le maître d'hôtel français, Antonin Carême, 1822.
C'était la folie des grandeurs, ce banquet ?
Ah, clairement, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant, de très spectaculaire, Carême le dit lui-même, hein. D'un peu oublié d'ailleurs. Alors les Champs-Élysées ne ressemblaient pas à ce qu'on connaît aujourd'hui, évidemment l'Arc de Triomphe, la construction venait juste de débuter. Et donc, de la place de la Concorde jusqu'à la barrière de l'Étoile, on avait des tables sous des tentes, avec les officiers sous des tentes à part, et puis l'état-major, lui, sous une tente aussi, évidemment, sous le rond-point des Champs-Élysées. On a le témoignage d'un soldat, d'ailleurs, parce que, j'ai envie de dire, on a le faste donné par Carême, et un soldat, lui, explique « Le dîner se composait de 8 plats froids qui se répétaient indéfiniment. Tout était bon, on était placé convenablement, mais malheureusement, la pluie contraria les ordonnateurs et les héros de cette magnifique fête. » L'armée défile, les Parisiens sont là, et au moment où débute ce banquet, sur 12 places parisiennes, il y a des distributions de vin et des loteries de comestibles.
Incroyable.
Donc ce sont des agapes qui sont censées concerner toute la ville.
De 1807, on passe à 1900, une date marquante, un repas célèbre qui figure d'ailleurs dans tous les manuels scolaires.
C'est vrai. Donc 1900, on a ce banquet des maires de France qui est organisé lors de l'exposition universelle, le 22 septembre 1900. L'idée est de célébrer l'anniversaire de la proclamation de la Première République, 1792, et le président de la République, Émile Loubet, décide de faire venir tous les maires de France. Donc c'est à la fois une façon de réunir la France entière à Paris, d'utiliser le cadre de l'exposition universelle où Paris se donne à voir au monde entier.
Il faut imaginer une effervescence culturelle incroyable.
Absolument. Et donc profiter de cet événement pour organiser au Jardin des Tuileries ce banquet qui est vraiment hors norme. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec plus de 22 000 convives.
22 000 convives.
22 000, je ne sais pas si on peut dire que c'est le plus grand repas de l'histoire, en volume, j'allais dire. Mais c'est quelque chose d'absolument colossal. On s'en rend compte d'ailleurs par toutes les proportions qui caractérisent ce repas. Ne serait-ce que pour les employés, il y a quasiment 5 000 personnes qui sont présentes. 1 200 maîtres d'hôtel, 3 600 serveurs, cuisiniers, etc. C'est une vraie armée qui est au service de ce repas, mais un repas qui, au final, ne va durer qu'1h10. C'est sous la conduite de Potel et Chabot, donc la grande maison parisienne. La performance est vraiment, là aussi, hors norme, j'ai envie de dire. 1h10 pour servir un repas qui compte, je pense, une douzaine de séquences. Hein, hors d'œuvre, darnes de saumon glacé parisienne, filet de bœuf en Bellevue, pain de caneton de Rouen, poulard de Bresse rôti. On a vraiment quelque chose d'intense, vraiment un tour de force, clairement de la part de Potel et Chabot.
Il y a un petit détail qui m'a marqué, le nombre de bouteilles de vin pour 22 000 convives.
Alors, j'ai 50 000, c'est ça?
Oui.
Ah ben, il faut ce qu'il faut.
On n'était pas très sobre.
Et 1 200 litres de mayonnaise.
Le président de la République en cicérone d'un soir, François Mitterrand a pu se prendre l'espace d'une petite heure pour un guide des monuments historiques. C'était hier soir au Louvre, un groupe de touristes pas tout à fait comme les autres, les 7 chefs d'État des pays les plus riches de la planète. Un Dom Pérignon, 1959, tiré à même le tonneau, la salle des cariatides du Louvre n'avait sans doute jamais vu autant de bulles.
Margaret, you're missing the tasting.
Allez Margaret, un petit verre, a soufflé le président Bush au premier ministre britannique. Madame Thatcher n'a pas fait la fière.
C'était le 15 juillet 1989, lors du sommet du G7 à Paris qui réunissait les 7 plus grands dirigeants de la planète. Loïc Bianassi, les grandes réceptions, ce sont aussi des rencontres diplomatiques pour honorer des hôtes étrangers et qui ne se passent pas forcément à l'Élysée, mais aussi dans d'autres lieux symboliques de la capitale.
Absolument, c'est une façon de mettre Paris à contribution, j'allais dire d'utiliser des hauts lieux parisiens, c'est une façon de renforcer précisément le faste du repas. On peut citer, alors un exemple souvent cité, mais qui est tout à fait révélateur de cette démarche, c'est en avril 1957, lorsque Élisabeth II est reçue pour un dîner au Louvre, dans la salle des cariatides du Louvre. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la veille, c'était à la Galerie des Glaces de Versailles, donc il y avait vraiment une volonté
de lui en mettre plein la vue.
De lui en mettre plein la vue, de fêter la reine. On a du mal à se représenter en fait l'enthousiasme populaire que soulevait la venue d'Élisabeth II pour sa première visite en tant que reine d'Angleterre en France. Donc René Coty la reçoit. Et donc on a ce repas qui est organisé avec des grands candélabres. Ça, tous les journaux de l'époque le relevaient. Et il y a toujours une anecdote qui est signalée. On lui sert un hérisson périgourdin au nid. Alors apparemment, ça avait beaucoup amusé la reine. C'est en fait une boule de foie gras hérissé de lamelles de truffe, donc on voit bien en quoi ça peut évoquer le hérisson, et le nid, c'est une brioche qui dissimulait un cœur de foie gras. Et c'est pas un hasard, parce que le foie gras a toujours été systématiquement servi à Élisabeth II lors de ses 4 voyages en France, parce qu'elle en raffolait, et il s'agissait là aussi de lui faire plaisir.
Ces grandes réceptions parisiennes, ce sont évidemment des hôtes prestigieux, des ressources, des matières premières, des produits, des recettes, mais c'est également des arts de la table. Et là aussi, il s'agit, en quelque sorte, d'en mettre plein la vue.
Le banquet, c'est en effet un moment où le pouvoir se donne à voir. Il est clair que les arts de la table permettent justement d'impressionner. Au Moyen-Âge, la vaisselle qu'on donnait à voir était mise sur ce qu'on appelait des dressoirs, c'est-à-dire qu'elle n'était pas réellement sur la table, elle était exposée. Donc, selon les époques, les arts de la table ont pu vraiment connaître des changements importants. Mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il existe à Paris une vraie tradition des arts de la table. On peut la faire courir du Moyen-Âge, où il y a une tradition d'orfèvrerie qui était tout à fait reconnue au niveau européen. Et puis, cette tradition d'orfèvrerie, elle s'est perpétuée. Je veux dire, il y a Christophe, là, au XIXe siècle. Hein. Donc, il
maison
y a...
Maison qui existe encore.
Maison réputée. Et puis, il y a d'autres types de traditions. On pense évidemment à Sèvres, hein, par exemple, qui a dû son essor à la monarchie au XVIIIe siècle et qui continue d'honorer l'étape de l'Élysée.
Deux fois centenaire cette année, la manufacture de Sèvres a reçu la visite du président de la République entouré de hautes personnalités de l'État. À Sèvres, où Louis XV installa en 1756 la manufacture royale pour la rapprocher de Versailles, la porcelaine, venue jadis de Chine, a pris une facture si unique qu'elle est devenue simplement un Sèvres dans le langage courant. C'était justice que l'exposition qu'a inaugurée M. René Coty rendit hommage dès la première pièce, un vase Pompadour, à celle qui lança, si l'on peut dire, les Sèvres. Sèvres du 18e, encore représentée par une soupière du Barry. Un peu plus loin, les Sèvres du Premier Empire, parmi lesquelles est exposée la tasse de l'empereur. Deux siècles de Sèvres, et à travers ces 200 années, le Sèvres fut pour sa gloire cette porcelaine de jolie femme dont parle Maupassant, née d'un caprice, faite pour des doigts légers et parfumés.
Bonjour, donc je suis Soisig Guillemin, je suis la chef du service du récollement et du mouvement des œuvres. Alors donc nous sommes ici à Sèvres et la manufacture de Sèvres n'a jamais cessé son activité depuis 1740. Encore aujourd'hui, elle produit à la fois pour les institutions de l'État et aussi pour des collectionneurs privés qui souhaiteraient acquérir des objets.
On a le droit d'aller y faire un petit tour ?
On est parti.
Wow.
Donc là, typiquement, vous êtes devant le four à bois qu'on utilise tous les 3 ans, avec une zone de cuisson qui est prévue en bas et une zone de cuisson qui est prévue au premier étage. Le four est fermé par 3 murs. La cuisson commence, 48 heures de cuisson, et ensuite une descente en température du four pendant 3 semaines. On défait les murs et c'est la grande découverte.
Mais c'est un four d'une dimension spectaculaire, ça ressemble presque à une toile.
Bah effectivement, mais en même temps, vous imaginez bien que ce four-là, ainsi que les 4 autres, étaient là pour assurer l'ensemble de la production de Sèvres. Donc il fallait bien qu'il y ait plusieurs fours et des fours monumentaux. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes ici à l'intérieur du moulin. Tous les matériaux constitutifs de la porcelaine de Sèvres sont fabriqués ici sur site. Nous avons un laboratoire pour mettre au point nos pâtes, mettre au point nos couleurs et les substrats qui servent pour l'or. Là, vous êtes face à 2 de nos collègues qui sont en train de préparer leur travail.
Qu'est-ce que vous venez d'allumer ?
Je viens d'allumer la désaireuse, en fait, la pompe. Moi, c'est Jean-Paul Papalia, donc... Aujourd'hui, on est en train, donc on a fabriqué une pâte dure. On fait ça avec du kaolin, du quartz et du feldspath. Voilà, donc on va mélanger le tout dans un broyeur et donc obtenir derrière une pâte liquide. Ensuite, filtre presser cette pâte et donc de passer d'un état liquide à un état solide, une pâte façonnable. Et donc on va du coup derrière malaxer, homogénéiser cette pâte pour du coup arriver à cette étape finale et donc de désaérer la pâte. Ça veut dire enlever entièrement les bulles d'air qui se trouvent dans la pâte pour avoir du coup une pâte homogène et prête avant la montée en atelier. Voilà.
C'est magique, hein ?
C'est vraiment ici que naît la matière.
Exactement. Sans eux, toute la suite n'existe pas. Tout est une grande chaîne. C'est-à-dire qu'on dépend de ses prédécesseurs qui ont, alors ici, fabriqué la pâte, par exemple. Vous allez avoir la fabrication de la forme qui va ensuite passer à l'émail et ainsi de suite. Tout ça est une grande main tendue à travers la production de la maison. Voilà. Ici, vous êtes dans la partie de l'atelier qui concerne les tourneurs. Donc, vous avez tous les bancs de tournage qui sont sur votre gauche. où chaque artisan procède à la création des formes. Donc là, typiquement, vous voyez sur les tournettes une œuvre qui est en train d'être réalisée. En fait, tous les artisans de Sèvres sont des techniciens d'art, ils appartiennent au corps des techniciens d'art. Ce sont tous des fonctionnaires de l'État qui ont été recrutés sur concours et qui ont tous des savoir-faire absolument fascinants. Ils excellent chacun dans leur métier, ils sont formés pendant 3 ans. Parce que c'est notre ADN, c'est la transmission des savoir-faire. Vous êtes ici dans la partie qui correspond au calibrage, la fabrication des assiettes. Donc vous voyez ici toutes ces étagères avec les assiettes qui sont empilées sur des planches. Elles sont à un stade de leur fabrication qu'on appelle le dégourdi. En fait, la pâte de porcelaine sèche avant de pouvoir recevoir l'émail pour justement l'absorber et ne faire qu'un entre le substrat en porcelaine et l'émail qui vient dessus, qui est aussi une forme de porcelaine, mais qui est une porcelaine liquide, l'émail. Voilà.
Est-ce que ce savoir-faire est le même qu'au début ou il a évolué au fil des progrès technologiques ?
Le savoir-faire est le même, mais après, bien entendu, vous bénéficiez de toutes les astuces et de toute l'intelligence des générations d'avant et des générations actuelles qui enrichissent leur process et qui créent de nouvelles formes parce qu'ils sont forts de la connaissance de leurs prédécesseurs et de ce qu'ils ont été capables d'inventer. C'est tout à fait l'esprit de cette maison. Donc là, effectivement, ça y est, vous êtes passé dans l'autre aile du bâtiment. Et donc là, en arrivant dans le couloir de la décoration, nous arrivons aussi dans le couloir des peintres. Nous sommes typiquement devant la vitrine qui représente une partie des services qui sont déposés par Sèvres au sein des services de l'État. Ici, vous avez l'assiette du service aux oiseaux.
L'incontournable.
Exactement. Alors, le premier modèle a été créé au XVIIIe siècle. Et au XIXe siècle, il a connu une très, très grosse diffusion. Notamment le dépôt à partir de 1872 auprès de la présidence de la République. Et c'est typiquement ce service qui est mis sur table quand Élisabeth II était reçue à la présidence.
Le sourire du temps s'est conjugué au sourire de Paris pour accueillir la reine d'Angleterre. À l'heure fixée, un vrai soleil de printemps éclairait la rencontre à Orly de Sa Majesté Élisabeth II et du président Coty. Le soir même, à l'Élysée, où le président de la République donnait un grand dîner en son honneur, la reine, en quelques mots pleins d'émotion, répondait à l'accueil de la France.
Monsieur le président, je suis profondément émue, ainsi que mon mari, de votre généreux accueil. Et nous vous en disons de tout cœur, merci. Et je bois à la prospérité de la France et des peuples qui lui sont associés.
Service aux oiseaux, parce qu'il est évidemment question d'oiseaux dans les motifs.
Exactement, tout à fait. En motif central, vous avez un oiseau qui est représenté, ou plusieurs qui sont représentés dans une scène pseudo-naturaliste. Mm-hmm. Et puis vous avez ce qu'on appelle des cartels, ce sont des petites incises sur le bord de l'assiette qui représentent à 3 endroits d'autres oiseaux. Quand vous êtes sur des oiseaux façon 18e, vous allez avoir des couleurs extrêmement acidulées, des roses vifs, des verts, c'est quasiment exotique. Et quand vous êtes sur la façon que nous on appelle Louis-Richard, qui correspond plus au 19e, comme vous êtes plus proche de la nature et plus proche des oiseaux européens, vous allez avoir des plumages qui sont beaucoup plus bruns, bleus, etc. Chaque modèle est différent, enrichi en plus du travail du peintre. Donc finalement, vous êtes à chaque fois devant une pièce unique.
Ce service est toujours en état de service, justement, à l'Élysée ?
Bien entendu, il est utilisé pour les repas d'État.
Plein feu, à présent, sur un événement à marquer d'une croix blanche dans notre histoire politique et diplomatique récente. C'était en 2015, le déjeuner des chefs d'État lors de la COP21. Nous avons avec nous Laurent Stefanini, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes depuis 2019 ambassadeur de France à Monaco. Et vous avez été, de 2010 à 2016, chef du protocole de la République française, chargé notamment des sommets diplomatiques se tenant en France. Et vous avez également dirigé un ouvrage collectif que nous avons à nos côtés, à la table des diplomates, l'histoire de France racontée à travers ses grands repas aux éditions de l'Iconoclaste. Vous avez donc été, dans le cadre de vos fonctions, grand ordonnateur, maître d'œuvre de ce repas de la COP21, comment il faudrait qualifier votre rôle ?
L'un des artisans, et pas le principal, parce que les principaux artisans, c'étaient les chefs qui ont fait de ce repas une très grande réussite.
Pourriez-vous, juste avant, nous rappeler le contexte politique et diplomatique de ce déjeuner qu'on pourrait qualifier de spectaculaire ?
Alors, déjà la COP21, c'est la 21e fois que se réunit la conférence des parties à la Convention sur les changements climatiques des Nations Unies. Et donc, c'était la volonté du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Laurent Fabius, de vraiment en faire un très grand événement sur le plan du fond, mais également sur le plan de l'organisation. Et au titre de l'organisation, il y avait le souci de faire un repas tout à fait exceptionnel dans la grande tradition française.
Dans quelle mesure, justement, ce déjeuner fut hors norme ?
Alors, il est hors norme d'abord par le nombre de participants, c'est-à-dire que vous avez 157 chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis. C'est un record absolu. Vous avez 76 présidents, 7 souverains, 5 princes héritiers, donc d'ailleurs celui qui était à l'époque le prince de Galles et qui est devenu le roi Charles III, 60 premiers ministres et 9 vice-présidents. C'est-à-dire que dans les 157, je n'inclus même pas les grands responsables d'organisations internationales. Le patron des Nations Unies était là, le patron évidemment de la Convention Climat, la directrice générale du FMI. Donc nous avions vraiment une assemblée exceptionnelle.
Ce déjeuner déployé au Bourget fut considéré comme une réussite diplomatique, mais également comme une réussite gastronomique, culinaire.
Alors, effectivement, quitte à faire un repas d'exception, autant soigner les choses. Et nous avons eu la chance de réunir pour ce repas, non seulement les chefs avec lesquels nous travaillons habituellement, Guillaume Gomez, qui était à l'époque le chef de l'Élysée, nous avions aussi Thierry Charrier, qui est un chef moins connu, mais remarquable, de l'hôtel du ministre des Affaires étrangères. Nous avions M. Guy Krenzer, de Le Nôtre, puisque c'est Le Nôtre qui a été en quelque sorte le fédérateur de l'ensemble de ces manifestations.
Mais nous avions un traiteur parisien.
Mais nous avons eu également Yannick Alénaud, Alexandre Gauthier, Nicolas Mas, Marc Vera et Christelle Bruat.
Un repas à portée écologique. Vous avez décidé, et ce fut un parti pris important, d'organiser un repas sans viande rouge ni porc, saluant toute la France du nord au sud et de la mer à la montagne.
Exactement. C'est un repas, si je peux dire, consensuel. D'abord, il faut savoir que lorsque vous accueillez 157 ou 200 personnalités étrangères, c'est l'ensemble des civilisations gastronomiques du monde qui sont réunies. Et donc, vous avez un certain nombre d'interdits alimentaires. Donc, pas de viande de bœuf, pas de viande de porc. Mais pour le repas lui-même, dans sa structure, vous avez un ensemble qui avait été voulu par les chefs qui nous avaient aidés comme réunissant l'ensemble des talents français. C'est comme ça que vous avez des coquilles Saint-Jacques qui venaient de Normandie, vous aviez de la volaille de Lick. C'est très important, la volaille, parce que ça fait l'unanimité. Vous mangez du poulet ou de la poularde absolument partout à travers le monde.
Alors là, Lick, on est dans les Hauts-de-France.
Hein. On est dans les Hauts-de-France, exactement. Ensuite, vous avez du confit de céleri farci à la crème d'épinards, persillé. Je pense qu'un certain nombre de ces produits venaient du centre de la France, du Val-de-Loire. Vous avez le reblochon biologique du Mont-Blanc. Et vous avez le Paris-Brest avec une compotée d'agrumes. Et parmi ces agrumes, vous avez des clémentines de Corse, donc la région la plus méridionale de la France métropolitaine n'était pas oubliée.
Est-ce que les retombées, les échos furent positifs après ce repas ?
Alors, le repas était un repas en ouverture de la COP 21. Nous nous étions posé la question, est-ce qu'on le fait en ouverture ou est-ce qu'on le fait en clôture ? Le fer en clôture, c'est ce qui se fait traditionnellement. Vous savez, c'est le banquet gaulois. C'est à la fin, on est ensemble, tout le monde est réconcilié, on fête la victoire. Et on n'était pas absolument sûr d'avoir un résultat aussi favorable que celui que les négociateurs français ont obtenu. Donc on s'est dit, il vaut mieux le faire en ouverture. Et c'est comme ça que c'est le dernier jour de novembre 2015 que ce repas a eu lieu.
Et en plus, il était timé, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un délai à respecter.
Bien sûr, surtout que tous ces chefs d'État et de gouvernement prononçaient dans le même temps ou un peu avant ou un peu après, mais on avait imposé une interruption d'une heure et demie pour permettre quand même de savourer en quelque sorte ce repas.
C'est finalement une tradition diplomatique très française que de caresser ses hôtes dans le sens du poil en leur servant un bon repas pour les mettre dans de bonnes conditions dans la perspective d'une négociation, non ?
Tout à fait. Un bon repas, c'est d'abord un élément de convivialité, c'est un élément de partage. Il y a aussi les effets du vin. Et vous avez remarqué qu'il y avait à la fois du Bourgogne, en l'occurrence un Meursault de 2011, et du Bordeaux, un château Bechevel de 2009. Donc les effets du vin, pour ceux qui en boivent, hein, petite dose, les effets de la très bonne chère font que, évidemment, ça met une très bonne ambiance. Et je dois dire que nous n'avons eu depuis que des retours favorables, et aussi des retours favorables compte tenu des circonstances dans lesquelles cette grande conférence s'était tenue, malgré les attentats du Bataclan de la mi-novembre, pour démontrer que, voilà, on n'abattait pas si simplement la France.
En tant que chef du protocole de l'Élysée, on dort comment la veille d'un événement pareil ?
On dort bien parce que d'abord je dors toujours bien et que comme je savais qu'on avait fait au mieux, que les choses avaient été très bien préparées, et donc on arrive sur l'événement soulagé.
Vous gardez un bon souvenir du dessert qui fut servi lors de ce déjeuner ?
Oui, je garde un très très bon souvenir de l'ensemble des plats d'ailleurs. Je dois dire que autant j'avais bien dormi la nuit d'avant, autant je n'ai pas beaucoup mangé au cours de ce repas. Et c'est d'ailleurs dans la logique des choses. Mais enfin, j'en garde un très très bon souvenir.
Je vous propose de vous rattraper.
Ah, bravo. Merci beaucoup.
Il fait son entrée dans notre studio, le fameux Paris-Brest au confit d'agrumes avec la chef qu'il a réalisée, Christelle Bruat, qu'on laisse s'installer.
Merci d'être là.
Bonjour Christelle Bruat.
Bonjour.
Merci de nous faire cet incroyable cadeau.
Merci de m'accueillir.
Vous avez reproduit dans toute son exactitude le Paris-Brest que vous avez servi en 2015 à l'occasion du déjeuner de la COP21.
Exactement, c'est exactement le Paris-Brest que j'ai fait à la COP21.
Comment vous l'avez imaginé ?
J'avais besoin de... Enfin, on a travaillé sur un dessert qui était très français, en tradition. Et après, on voulait travailler aussi avec des produits qui étaient français. Donc là, je vous ai fait venir les mêmes agrumes de Corse qui ont servi pour le dessert.
Alors Christelle Bruat, on vous présente quand même. Vous étiez en 2015 chef pâtissière du Précathlon, le restaurant 3 étoiles dans le 16e arrondissement de Paris, auprès du chef Frédéric Canton, avec qui vous avez quand même eu une collaboration de 16 années. Ce ne fut pas
années,
rien.
C'est ça.
Vous avez été ensuite nommée chef pâtissière de la Brigade de l'Élysée.
C'est ça, mais c'était un peu plus tard. Je suis rentrée au Palais de l'Élysée en 2019, à la suite du repas donné pour le président chinois.
D'accord. Alors, ce fameux Paris-Brest, est-ce que vous pouvez nous en décrire la forme ?
Alors, j'ai fait des petites boules. Mmh. C'est un petit peu en longueur, je l'ai fait petit. Pour la dégustation, c'est plus sympa. Au fond, vous avez une petite compotée d'orange de Corse, avec un petit praliné noisette et amande, et puis la croûte qui est un petit peu croustillante sur le dessus. Et on a bien sûr les oranges confites de la famille Santini.
Ah, alors là, vous parlez d'une grande famille de confiseurs à Sauveria, du côté de Corté, hein ?
Exactement, c'est la confiserie Saint-Sylvestre.
Est-ce qu'on a le droit d'attaquer ?
Bien sûr, il faut.
Laurent Stefanini, une petite cuillerée, et on veut évidemment absolument votre avis de gourmet avisé.
2015, ça remonte quand même un peu, donc je ne peux pas vous dire s'il est encore meilleur ou aussi bon que celui de
c'est
2015.
C'est encore meilleur avec le temps.
Voilà.
C'est très très bon.
La légèreté de cette mousse.
C'est léger, oui.
Elle est particulièrement foisonnée.
Exactement.
Loïc ?
J'étais curieux, en fait. Quand je lisais le menu, je me demandais comment le praliné se mariait justement aux agrumes. Et là, c'est tout en subtilité. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien.
Vraiment, une vraie puissance fruitée. Il y a à la fois un bon équilibre entre l'acidité et la rondeur.
C'est ça.
Et la pâte à choux, en plus, c'est particulièrement légère et croustillante. À la fois croustillante et fondante.
C'est ça.
Loïc Bienassi.
Oui.
Le Paris-Brest est évidemment un grand dessert, une grande pâtisserie d'origine parisienne, je dirais presque que son nom l'indique.
Alors, francilienne, en tout cas, on a pour habitude d'attribuer sa création à la pâtisserie Durand, à Maison Lafitte. 1910, c'est souvent la date retenue, alors je dirais que c'est possible, en effet. C'est compliqué, réellement daté pour moi. En tout cas, on voit le Paris-Brest qui apparaît à partir des années 1920. Où là, clairement, la recette se banalise. On la trouve dans des restaurants, à la carte de restaurant à Paris. Et la première recette que moi, j'ai identifiée, c'est dans un ouvrage de 1936, « L'art culinaire moderne » de Henri-Paul Pellapra, chef très connu. C'est une recette telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, peut-être un peu plus beurrée. La crème pâtissière pralinée, on voit qu'elle est nettement plus beurrée. Mais on se rend compte aussi, dès cette époque-là, qu'on a déjà plein de variantes, en fait. Qu'on trouve notamment des Paris-Brest à la chantilly. Parfois, on a l'impression que ce qui fait le Paris-Brest, c'est cette forme de roue. On dit d'ailleurs que ça renvoyait à la course Paris-Brest-Paris, qui était une course cycliste qui avait été créée en 1891. Donc, ce gâteau rendrait hommage à cette course cycliste.
Donc, normalement, le Paris-Brest doit avoir la forme d'une roue de vélo, d'une couronne, c'est bien ça ?
C'est ça, mais moi, j'aime pas faire les choses comme tout le monde.
C'est ça. Et puis, en plus, vous y ajoutez un accent corse, ce qui n'est quand même pas banal. Christelle Bois, dans quel état vous étiez ?
Je pense que j'étais intimidée. Parce que quand on accepte de faire un menu comme ça, on ne se rend pas bien compte en fait, des invités qu'on va servir. Et c'est plus quand on voit les cortèges, les personnes qui encadrent, tous les gardes du corps et tout ce qui s'ensuit, qu'on se rend vraiment compte en fait, de qui on sert. Et j'ai croisé le président Obama, et j'ai croisé le président Poutine aussi. Et puis monsieur le président Hollande, fin de repas.
Vous avez reçu des compliments ou pas ?
Ah, monsieur Hollande était très très content. Et puis je crois qu'il aime bien manger.
Vous le confirmez, Laurent
Stéphanie ?
Je le
confirme, tout à fait. Mais je dois dire que les différents présidents de la République que j'ai servis, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, tous les trois étaient très attentifs à la qualité de ce qu'ils mangeaient et à la qualité de ce qui était servi. Et de faire vraiment de la table du chef de l'État français un élément, en quelque sorte, d'attractivité très très forte.
Christelle Bois, vous avez passé 3 ans à l'Élysée en qualité de chef pâtissière et désormais vous vivez de nouvelles aventures sucrées.
Oui, j'ai ouvert une chocolaterie qui s'appelle Madame Cacao et qui est située au 10 rue du Cherche-Midi. Et en fait, j'ai choisi le nom de Madame Cacao parce qu'en fait, ces 3 années au Palais de l'Élysée m'ont aidé à construire ce projet. Donc c'est un hommage à Madame Macron, qu'on appelle Madame quand on la salue, et Cacao parce qu'elle parle de cacao quand elle parle de chocolat. Et c'est pour moi une rencontre juste incroyable.
Bon vent à cette nouvelle boutique. Merci Christelle Bois. Merci Laurent Stéphanini.
Merci à vous.
J'ai retenu cette phrase de Brillat Savarin. Je cite, « La destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. » Fin de citation.
Du luxe culinaire déployé sur les tables du pouvoir, on passera au cours du prochain épisode à l'atmosphère populaire et gouailleuse du ventre de Paris. Comment les Halles sont devenues le cœur nourricier de la capitale et la source d'inspiration de nombreux artistes, c'est ce qu'on vous racontera avec le professeur de lettres Stéphane Solier. Paris Ripaille est un podcast original de France Inter avec le Centre des Monuments Nationaux.